Café, thé ou chocolat. Bonjour, nous sommes les Dignes Ding Dong et nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Fréquence Mistral pour une nouvelle émission dont la première partie sera consacrée à l'histoire de ces boissons consommées dans le monde entier. Puis, dans une seconde partie, nous aborderons les effets du café, du thé et du chocolat sur le cerveau et sur l'organisme des êtres humains. Commençons par un peu d'histoire. La découverte du café et son exploitation sont imprégnées de mythes et de légendes. Le caféier est historiquement originaire d'Éthiopie, dans la province de Kaffa, mais la question n'est pas absolument tranchée. Il est vraisemblable que les tout premiers caféiers sauvages soient originaires du Yémen, de l'autre côté du golfe d'Aden. Le golfe d'Aden est l'espace maritime situé entre la corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Il sépare le continent africain du continent asiatique. Les cafés qui y sont aujourd'hui toujours cultivés sont parmi les plus prestigieux de la région. Au cours du IXe siècle, la légende veut qu'un berger d'Abyssinie, actuellement l'Éthiopie, ait remarqué l'effet tonifiant de cet arbuste sur les chèvres qui en avaient consommé. Sa culture se répandit d'abord dans l'Arabie voisine, où sa popularité a très certainement profité de la prohibition de l'alcool par l'islam. La culture du café remonterait au XVe siècle. Il est alors appelé kawa, qui signifie « revigorant » en arabe. En 1583, un médecin allemand de retour d'un voyage de 10 ans au Moyen-Orient, Leonard Rowolf, est le premier occidental à décrire le breuvage comme étant une boisson aussi noire que l'encre, utile contre de nombreux maux, en particulier les maux d'estomac. Ses consommateurs en prennent le matin sans se dissimuler dans une coupe en porcelaine qui passe de l'un à l'autre et où chacun prend une rasade sonore. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bunu. Ses commentaires attirent l'attention de marchands que l'expérience du commerce des épices a rendu sensible à ce genre d'informations. Le café séduit aussi vite en Occident qu'il a séduit en Orient. Il est alors considéré comme un produit de luxe et s'invite aux tables de la royauté et des aristocrates. Augmentant ainsi la demande autour de la boisson qui fera les affaires des importateurs de l'époque, le café arrivera en Italie au XVIe siècle et traversera l'Europe en quelques décennies. Il arrive en France aux alentours de 1600 par les marchands vénitiens. On conseille alors au pape Clément VIII d'interdire le café, car il représente une menace d'infidèle. Après l'avoir goûté, ce dernier baptise au contraire la nouvelle boisson, déclarant que laisser aux seuls infidèles le plaisir de cette boisson serait dommage. Le café est très vite prisé des moines pour les mêmes raisons qu'il est des imams. Il permet de garder l'esprit clair. Quelques dates. En 1880, alors que les foyers français torréfient eux-mêmes leurs grains de café vert dans une poêle, les premières brûleries commencent à torréfier les grains de café et professionnalisent l'activité tout en affinant les techniques de torréfaction. En 1884, Angelo Moriondo, inventeur et ingénieur italien de père en fils, crée et fait breveter la première machine à expresso, alors dénommée nouvelle machine à vapeur pour la préparation économique et instantanée de café, méthode à Moriondo. En 1908, Amalie Auguste Melita Benz crée le premier filtre à café pour remplacer les filtres en linge qui faisaient trop infuser le café à son goût. Elle fit breveter son invention le 8 juillet de cette année à Berlin. En 1979, Cofex S.A. commercialise le premier procédé pour retirer la caféine des grains de café sans utiliser de solvant. C'est le Swiss Water Process.
La production de café dans le monde. La culture du café s'est établie tout autour du monde, comme nous l'avons dit plus haut, la zone située entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Sur un planisphère, les tropiques sont représentés par deux lignes de part et d'autre de l'équateur. On retrouve le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud. Cette zone offre des conditions climatiques nécessaires à l'exploitation du caféier. Cet arbuste qui fournit les précieuses cerises de café y trouve les températures propices à son développement. Les pays où l'on récolte le café se trouvent sur trois continents. L'Amérique latine produit plus de la moitié du café en grain, laissant l'Afrique et l'Asie se partager le reste de la récolte mondiale, composée d'environ de 70% d'Arabica contre 30% de Robusta. L'Arabica et le Robusta sont deux arbustes distincts. Parlons en premier du Robusta. Le caféier qui produit les grains de Robusta s'appelle le Coffea canephora. Il se cultive en plaine de 0 à 800 mètres d'altitude. Il a une saveur plus corsée, plus amère et a un goût puissant. Il est cependant peu aromatique. C'est un arbuste qui s'adapte à des conditions difficiles. Il ne craint ni la chaleur ni le plein soleil. Sa fève est de petite forme ronde et de couleur jaune à brun. Le café Robusta représente un tiers de la production mondiale. Il contient presque le double de caféine qu'un café arabica. En effet, 3% de caféine pour le Robusta contre 1,2 à 1,5 pour l'arabica. En ce qui concerne l'arabica, le caféier qui produit les grains d'arabica s'appelle Coffea arabica. Il préfère un climat doux, humide et ombragé. Il ne pousse qu'en altitude, entre 800 et 2000 mètres, où les sols sont riches en minéraux. La fève d'arabica est de forme allongée et peut-être de couleur rouge, jaune ou violette. Ce café correspond aux deux tiers de la production mondiale. Il reste plus cher que le Robusta. Où trouve-t-on du café dans le monde de nos jours? L'Amérique latine, championne de la production de café. Cette boisson est profondément ancrée dans cette région qui va du Mexique à la pointe du Brésil. La région caféière de Colombie est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO cherche à instaurer la paix par la coopération internationale. Ces cafés sont chaleureux, on retrouve souvent des notes de chocolat et de noisettes avec plus d'acidité que d'amertume. L'Afrique, elle est le berceau de la culture du café, avec l'Éthiopie qui reste le premier producteur de café du continent africain. On y trouve plus de 150 variétés de café, y compris des caféiers sauvages. Ces cafés sont empreints de mystère avec des notes florales ainsi que des arômes de baie et une acidité qui peut être citronnée. L'Asie, le paradis des cafés Robusta. Le début de la culture du café en Asie fut marqué par de nombreuses difficultés dues à diverses maladies, raison pour laquelle les plantes de caféiers Robusta, protégées par leur teneur en caféine, sont privilégiées. Le revers de la médaille est que les cafés asiatiques eurent longtemps une piètre réputation. Aujourd'hui, le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café. L'Asie propose une large palette, dont des variétés d'arabica robustes et intenses. Le Robusta asiatique est très apprécié dans les mélanges. Il se montre rustique et terreux.
Écoutons à présent la chanson « Couleur café » de Serge Gainsbourg.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur café, que j'aime ta couleur.
jour sans philosopher. C'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé, pour tout oublier. On attend que ça se tasse.
Abordons à présent l'histoire du thé. À l'échelle mondiale, il se boit environ 36 000 tasses de thé à chaque seconde. Ainsi, on estime que 1 200 milliards de tasses seraient consommées chaque année dans le monde. L'origine géographique et histoire du théier, Camellia sinensis, Tassea, la place dans les régions du sud-ouest de la Chine, dans la province du Sichuan, où cet arbre de faible taille croît spontanément en moyenne altitude, favorisé par un climat chaud et humide de la zone subtropicale, apparu il y a environ 5000 ans. Jusqu'aux environs du 3e siècle avant Jésus-Christ, l'usage est de faire bouillir les feuilles directement dans l'eau. À chaque date s'instaure le traitement spécifique des feuilles fraîchement cueillies par un séchage méticuleux. La qualité de la matière première fixe son prix, les meilleures cueillettes étant recherchées par les connaisseurs. On raconte que c'est un pur hasard que l'empereur Shen Nong, qui avait pour habitude de faire bouillir son eau pour la purifier, découvrit le thé. En effet, ce jour-là, il fit bouillir son eau sous un arbuste. Il s'assouplit et pendant son sommeil, quelques feuilles de l'arbuste tombèrent dans l'eau. À son réveil, l'empereur trouva cette boisson délicieuse et décida de développer des jardins de cet arbuste le théier. Il incita ses sujets à faire du thé leur boisson favorite et ce fut un succès. Né en Chine, le thé développa d'abord en Asie. En 1606, un navire hollandais de la Dutch East Company débarqua à Java en Indonésie. Quelques caisses de thé échangées contre des caisses de sauge. L'histoire ne dit pas si les Hollandais achetèrent alors le thé oxydé ou s'il était Sidoxa naturellement au cours du voyage. Toujours est-il qu'il fut d'abord connu en Europe sous forme de thé noir. En 1653, les premières caisses arrivèrent en Angleterre, où l'usage de la boisson les répandit rapidement, porté par la vogue du café. La pratique éminente sociale des afternoon tea se répandit alors dans toutes les couches de la population et se formalisa au XIXe siècle en « five o'clock tea ». Au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, le thé devint un enjeu économique majeur. Alors d'une lutte acharnée entre Anglais puis Britanniques et Hollandais, les compagnies des Indes orientales, fondées en 1599 par la reine Élisabeth, eut le monopole du commerce du thé jusqu'en 1834. Le sens du mot thé. Le mot thé possède quatre sens différents. Tout d'abord, il désigne la feuille, voire le bourgeon du théier, Camellia sinensis, d'une composition chimique spécifique qui confère les propriétés pharmacologiques et alimentaires particulières. Son prix, souvent élevé, dépend pour beaucoup de sa qualité et aussi de son degré de rareté sur le marché. Et les arrivages massifs au cours des siècles en ont fait baisser les cours. Venu de Chine, le thé d'abord apprécié et consommé par les catégories les plus fortunées de la société. Sa dégustation fait appel à des pièces de vaisselle nouvelles. Jusqu'au XVIIe siècle, l'expression « thé » prend un sens vague et général pour désigner une boisson chaude. Une infusion représentant le plus souvent un caractère médicinal. Cette tendance résulte du développement d'un engouement européen pour les produits exotiques rares. En 1755, le médecin Louis Méméry propose de boire du thé contre la goutte pour purifier le sang. À cette époque, son usage est particulièrement développé dans les régions des Flandres. Et le thé parfumé dans tout ça? Si l'ajout d'autres plantes que des infusions de thé, comme de la menthe ou du jasmin, est difficile à dater avec exactitude, on en sait plus sur les premiers thé aromatique, on dit comte Earl Grey anglais. Charles Grey, alors Premier ministre britannique, aurait ramené la recette du fameux thé Earl Grey de Chine occidentale dans les années 1830. À ceci près que le comte Grey n'a en fait jamais mis les pieds en Chine. On lui doit pourtant d'avoir popularisé l'idée d'associer thé et arôme naturel, la de bergamote, issue de ce petit agrume italien, cultivé en Calabre et connu pour ses vertus relaxantes et propices à la bonne humeur. Le thé parfumé a ensuite connu un véritable essor en France à partir des années 1970-1980 pour devenir les grands classiques, les incontournables que l'on connaît aujourd'hui. Évidemment, tous les mélanges ne se valent pas.
De la culture à la fabrication. De nos jours, la cueillette du thé s'effectue encore à la main dans la plupart des pays producteurs. Elle se pratique plusieurs fois par an, jusqu'à 4 fois selon les régions. Les cueillettes se font par round de 4 à 14 jours, le temps que le théier se renouvelle. Plusieurs parties de l'arbuste sont cueillies. À l'extrémité des branches se trouve un bourgeon d'un duvet blanchâtre, le pekao, duvet blanc en chinois. Son nom vient du fait qu'il est recouvert d'un duvet blanchâtre. C'est la partie de l'arbuste la plus recherchée. Ensuite, les feuilles les plus jeunes, vert clair, ce sont les plus riches en substances, théine, tanin. Ce sont également celles qui fournissent la boisson la plus goûteuse et la plus raffinée. Puis, en redescendant la branche, on trouve des feuilles de plus en plus larges. Ces feuilles-là donnent une boisson moins savoureuse. En général, les thés sont cultivés dans des plantations que l'on appelle des jardins, mais certaines raretés échappent à cette appellation, comme par exemple les théiers sauvages des montagnes du Nord Vietnam, qui poussent là, en pleine forêt primaire. Ces théiers, difficilement accessibles, doivent être escaladés à main nue pour en récolter les bourgeons et les jeunes pousses. Ils donnent d'incroyables grands crus aux saveurs incomparables. Comment consomme-t-on le thé ? À chaque pays, sa manière de consommer le thé. Au Royaume-Uni, on boit du thé noir additionné de lait et de sucre. En France, on aime les thés parfumés. Ces thés sont désormais appelés thés français et connaissent un véritable effet de mode dans de nombreux pays asiatiques. En Mongolie, le thé est longuement bouilli avec des épices. Au Japon, l'heure du thé est une véritable cérémonie dont il faut connaître les règles. En Chine, on a coutume de préparer le thé dans de minuscules théières selon une technique traditionnelle. En Argentine, on boit de la yerba mate à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans une calebasse avec une paille filtrante en métal appelée bombilla.
Écoutons maintenant Capucine Olivier avec la chanson « Le lutin boit du thé ».
Darjeeling sur les cimes du Gange, le thé noir pour les soirées très étranges. Velouté, invité d'un thé à la menthe, évané pour la fille aux amours débutantes. Lutin boit du thé, l'amertume, le thé vert de l'été qui se consume. Pour aimer, on se craint, on se tait. Mmh. les soirées très étranges. Velouté, invité d'un thé à la menthe, et vanné pour la fille aux amours débutantes. Lutin boit du thé, l'amertume, le thé vert de l'été qui se consume.
Abordons à présent l'histoire du chocolat. L'histoire du chocolat remonte à 4000 ans dans l'antique Mésoamérique qui incluait entre autres le Mexique d'aujourd'hui où les premiers cacaoyers ont été trouvés. La civilisation Olmèque, l'une des plus anciennes d'Amérique latine, a été la première à transformer le cacao en chocolat. On en faisait des infusions qu'on buvait lors des rituels et que l'on utilisait comme médicament. Des siècles plus tard, les Mayas considéraient le chocolat comme la boisson des dieux. Vénérée, l'infusion de chocolat maya était faite de fèves de cacao rôti et moulu, mélangées à des piments, de l'eau et de la semoule de maïs. Les Mayas transvasaient cette mixture d'un récipient à un autre, obtenant ainsi un breuvage à mousse épaisse qu'ils appelaient xocolati, littéralement eau amère. Le mot cacao vient de l'aztèque cacahuati, désignant la substance que l'on tirait des fèves de cacahuacientli, signifiant « eau » et qui fut traduite en « chocolate » par les Espagnols. Au XVe siècle, les Aztèques utilisaient les fèves de cacao comme une monnaie. Voici quelques dates. 1502, en accostant l'île de Guanaja, ou Guanara, au large du Honduras, des indigènes venaient à la rencontre de Christophe Colomb, lui offre des fèves de cacao en échange de quelques présents. Devant l'incompréhension des Européens, le chef des indigènes se ferait préparer une boisson chocolatée. À bord de la Santa Maria, Christophe Colomb goûte, n'aime pas et oublie les fèves. 1534. En mélangeant la poudre de cacao à de la vanille et du miel, les moines de l'abbaye de Piedra en Espagne créaient la première tasse de chocolat en Europe.
Le chocolat débarque enfin. On ignore le moment précis où le chocolat est introduit en Espagne. La légende veut que l'explorateur Hernán Cortés en ait ramené dans son pays natal en 1528. Cortés aurait découvert le chocolat au cours d'une expédition en Amérique. Parti en quête d'or et de richesses, il reçoit une tasse de cacao de la part de l'empereur aztèque. En rentrant chez lui, Cortés introduit la fève de cacao en Espagne. Et bien qu'on la serve toujours sous forme de boisson, le chocolat espagnol et même additionné de sucre et de miel pour en adoucir le naturel amer. Le chocolat connaît rapidement une grande popularité auprès des riches. Même les moines catholiques l'aiment et le boivent pour faciliter les pratiques religieuses. Au travers des siècles, le chocolat s'est importé sur tous les continents jusqu'en France. Il fallut attendre 1615 pour que la boisson chocolatée fasse son apparition en France. C'est la fille de Louis-Philippe II d'Espagne, Anne d'Autriche, qui, lors de son mariage avec Louis XIII, a fait connaître le chocolat à la cour française. Un peu plus tard, en 1659, Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, ouvrit une chocolaterie dans les quartiers des Halles à Paris. En 1659, le premier chocolatier de France, David Chailloux, s'est vu accorder par une lettre du roi le privilège exclusif de faire vendre et débiter une certaine composition qui se nomme chocolat. Il ouvre la première chocolaterie à Paris 2 ans plus tard. Il faut attendre 1674 pour voir naître le premier chocolat à croquer et 1780 pour que la première fabrique de chocolat s'installe en France à Bayonne. En 1750, le chocolat fait son entrée en Suisse, importé lors des foires par des marchands de Milan ou Turin. Au XVIIIe siècle, le chocolat était encore un produit de luxe. Pour s'offrir un kilo de chocolat, un ouvrier devait fournir 4 jours de salaire. En 1815, la première usine Van Houten était construite. S'en est suivie la culture intensive de la fève sur le continent africain, puis indonésien. En 1828, l'invention de la presse à chocolat en révolutionne la préparation. Ce nouvel appareil peut presser du beurre de cacao à partir de fèves rôties. Il ne reste alors qu'une fine poudre de cacao amer. Cette poudre est ensuite mélangée à des liquides qu'on verse dans un moule où le tout se solidifie et prend la forme d'une barre de chocolat comestible. En 1867, l'entreprise Meunier, qui a démocratisé le carré de chocolat en le faisant entrer dans le goûter quotidien des enfants français, produit 25 000 tonnes par an de matière totalement automatisée. En 1875, l'inventeur du chocolat au lait par Daniel Peter, grâce au lait en poudre inventé par Henri Nestlé en 1866. La même année, les usines Poulain produisent alors 5 tonnes de chocolat par jour. Le cacaoyer est un arbre au feuillage dense originaire d'Amérique centrale et tropicale. Cet arbuste, mesurant une dizaine de mètres, a la particularité de porter en même temps ses fleurs et ses fruits appelés cabos, directement sur le tronc et les grosses branches. Les fleurs, petites et inodores, sont blanches ou jaunes rosées et poussent en petits bouquets. Elles sont pollinisées par de petits moucherons, mais sur le millier de fleurs produites par an, environ 1% deviendra des cabos. Les cabos, de forme oblongue, mesurent de 15 à 25 cm. Elles sont, en fonction de leur variété, de couleur jaune, orangée ou presque violette. Elles peuvent contenir une cinquantaine de graines au maximum, appelées fèves, en forme d'amande, entourées d'une pulpe sucrée et blanche, le mucilage. Quel climat convient le mieux au cacaoyer ? Le cacaoyer est de nos jours cultivé sur tous les continents aux latitudes intertropicales. Plus encore que le caféier, il nécessite un climat chaud toute l'année, de 23 à 28 degrés, et très humide la plus grande partie de l'année, avec des précipitations annuelles d'au moins 1500 à 2000 mm. La cabosse mûrit pendant 5 mois après la floraison, avant d'être récoltée. Une fois mûre, les fèves qu'elle contient servent à créer le chocolat. Un cacaoyer cultivé commence à produire des fruits au bout d'environ 5 ans. Puis il pourra produire environ 350 kg de fèves par an. Enfin, un arbre vit environ 30 à 50 ans. Mais il est ensuite impossible de replanter d'autres cacaoyers sur la même plantation. Épuisement du sol et manque de fertilité.
La préparation du cacao. Les graines fraîches n'ont pas d'odeur et leur saveur est très astringente. Elles sont d'abord entassées 8 à 10 jours et aérées de temps en temps par brassage. La pulpe sucrée qui entoure les graines fermente, puis les restes des pulpes sont éliminés par le lavage et tamisage. Les graines sont ensuite torréfiées, mises à sécher à la chaleur. Elles brunissent et font enfin broyer pour obtenir la poudre de cacao au goût amer. Celui-ci peut être mélangé à d'autres ingrédients. Sucre, lait, pour obtenir divers chocolats. Le cacao est surtout utilisé dans l'alimentation pour la fabrication du chocolat, qui est un aliment nourrissant, réconfortant et tonifiant. Le beurre de cacao est également utilisé comme excipient pour les pommades et les suppositoires. Évoquons à présent les différents types de cacao. Il existe trois principaux crus, appelés aussi cépages, dont les appellations sont le Griollo. Les cacaos sont d'origine d'Amérique centrale et du Mexique. Les cabos sont de couleur verte et orangée à maturité. Les fèves sont grosses et de couleur claire. Le Griollo donne des cacaos très fins et très recherchés, mais il ne correspond qu'à 1% de la production mondiale, du fait de sa fragilité et de sa sensibilité aux maladies. Le second type de cacao, le Forastero, c'est le cacao le plus produit au monde, avec environ 80% de la production. Les fèves, aplaties, sont violettes et les cabos vertes ou jaunes à maturité. Il provient principalement d'Amazonie et d'Afrique du Sud. Le troisième type de cacao est le Trinitario. Hybride des deux précédents, il représente environ 20% de la production mondiale. On le rencontre à Trinidad, État des Antilles, mais aussi dans l'océan Indien, Java.
Écoutons à présent Annie Cordy avec la musique Chaud Cacao.
Voici arrivé à présent à la deuxième partie de l'émission et nous abordons après les effets de ces boissons sur l'organisme. Tout d'abord, le cacao. Quelles sont les vertus des feuilles de cacao ? Les écorces de fèves de cacao, parfois appelées feuilles de cacao, sont connues pour leurs effets coupe-faim naturels. Le chocolat fait-il grossir ? Un carré de chocolat noir par jour n'entraînera pas de prise de poids. C'est l'abus qui fait grossir, pas le chocolat lui-même. Il est bon de choisir le moins sucré, donc le chocolat noir, à plus de 70%. Il est important de vérifier également l'absence d'huile de palme dans certaines préparations chocolatées, car il semble que l'huile de palme soit en partie responsable de la déforestation en Amazonie. Le chocolat est-il antidépresseur et réconfortant ? A de nombreux bienfaits du chocolat et son action bénéfique sur le moral et contre la déprime. Il contient de la théobromine, qui est un alcaloïde à propriétés diurétiques et cardiotoniques, extrait des semences de cacao, qui est également présent dans le thé, le café et la noix de coja. Le chocolat contient également du magnésium, substance présente en grande quantité, qui stimule et régule le système nerveux. Le magnésium est bien connu pour ses effets relaxants. Il semblerait que plus le chocolat est riche en cacao, plus il lutte contre les stress et améliore l'humeur.
En ce qui concerne à présent le café et les effets de la caféine, consommée de façon modérée, la caféine améliore notre digestion, soulage les migraines et atténue la sensation de fatigue. Alliée de notre cerveau, elle améliore notre raisonnement et notre concentration. C'est un psychostimulant efficace. Son action se manifeste 30 minutes après la prise et se prolonge pendant 4 heures. À haute dose, la caféine peut néanmoins avoir des effets néfastes sur notre santé. troubles du sommeil, palpitations cardiaques, etc. Pour éviter les risques, il est généralement conseillé de limiter notre consommation de caféine. La théine, quant à elle, est un stimulant tout en douceur. Si la théine provient de la même molécule que la caféine, elle n'agit pas de la même façon sur notre organisme. Elle est libérée dans le sang de manière uniforme sur une longue durée pouvant aller de 6 à 8 heures. La théanine, acide aminé présent dans l'infusion de thé, a également le pouvoir de détendre notre cerveau et permet d'améliorer la relaxation, diminuant ainsi les effets excitants de la théine. Contrairement au café, le thé stimule sans énerver. Cependant très riche en polyphénol, le thé inhibe l'absorption du fer dans l'organisme, il ne faut donc pas en boire toute la journée. Le terme polyphénol ou composé phénolique remplace l'ancien terme de tanin végétal. Ces polyphénols sont parmi les antioxydants les plus actifs. Alors thé vert, thé noir, jeune pousse, lesquels sont les plus concentrés en théine? De manière générale, une tasse de thé contient un taux de théine ou caféine 2 à 3 plus faible qu'une tasse de café. Il existe néanmoins de nombreux thés et autant de différences. La période de récolte et la méthode de fabrication jouent un rôle sur la concentration de théine. Ainsi, un thé de première cueillette récolté au printemps sera plus concentré en théine et plus aromatique. Il n'y a pas de corrélation directe entre la couleur d'un thé et sa teneur en théine. En revanche, la partie de la plante utilisée est déterminante. Les bourgeons et jeunes pousses sont plus riches en théine, tandis que les tiges et feuilles basses en sont quasiment dépourvues. Bourgeons et jeunes pousses sont aussi les parties les plus nobles du théier qui offrent les arômes les plus subtils. Les thés blancs composés de bourgeons sont donc généralement les plus concentrés en théine malgré leur arôme délicat. Pour le thé comme pour le café, il n'y a donc aucun lien direct entre le goût et la teneur en théine ou caféine. Il existe une boisson sans théine qui est parfois appelée thé. Surnommé thé rouge, le rooibos n'appartient pourtant pas à la famille des thés. Originaire d'Afrique du Sud, cet arbuste offre une infusion gourmande aux notes vanillées qui possède de nombreuses vertus. Antioxydants, il favorise la digestion et aide à trouver le sommeil, ce qui en fait une boisson idéale à consommer le soir. Si vous n'êtes pas amateur de rooibos, vous pouvez toujours déthéiner votre thé en quelques secondes. Pour cela, infusez les feuilles 30 secondes et jetez cette première infusion qui concentre 80% de la théine. Vous pourrez ensuite réinfuser les feuilles pour obtenir un thé faible en théine.
Chacun sa tasse. Que vous soyez plus expresso, americano, thé vert ou thé noir, il est conseillé de limiter nos apports en caféine. Cependant, chaque individu réagit différemment et certains sont beaucoup plus sensibles, tandis que d'autres réagissent peu à la stimulation de la caféine. L'important est de choisir parmi le thé, le café ou le chocolat, les boissons avec lesquelles vous vous sentirez le mieux, tout en les utilisant à bon escient et avec modération. Alors, quelle tasse êtes-vous? Nous voici à la fin de notre émission et nous remercions les auditeurs Fréquence Mistral et Odile de nous avoir reçus et vous donnons rendez-vous en mars 2024 pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.
Et pour finir, écoutons la musique Nikita de Bristol Love.
Hey Nikita, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know.